Xavier Emmanuelli, vous êtes à l'origine d'un mouvement qui s'appelle Médecins sans frontières. Alors, voulez-vous nous dire d'abord ce que c'est que Médecins sans frontières ?
Ce que c'est actuellement, c'est devenu une grosse institution. C'est une organisation non gouvernementale, en France régie par la loi de 1901, c'est-à-dire sans but lucratif, sans arrière-pensée ni caritative, ni politique, ni confessionnelle, et qui est formé de médecins et membres de corps de santé, et qui doivent intervenir dans toutes les situations de guerre, de belligérance, de catastrophes naturelles, enfin toutes les situations où les structures sanitaires habituelles disparaissent et laissent des populations entières sans recours.
Alors comment vous avez fondé ce mouvement ?
On était une bande de copains, un petit peu marginaux par rapport à la médecine traditionnelle. On était fils des uns et des autres, je crois presque tous des fils de médecins. On était 5 ou 6. Et on a fait nos études de médecine ensemble à Paris.
Quelle année à peu près ?
Là, c'était dans les années 71. Mais on se connaissait depuis fort longtemps, toute cette équipe, puisqu'on s'était rencontrés sur les bancs de la fac. Et on se posait un certain nombre de questions éthiques, mais aussi politiques, parce que dans les années 60, chez nous, c'était la guerre d'Algérie. Et on avait des engagements, il me semble, à prendre. Et on essayait de se déterminer. C'est comme ça qu'on se connaissait. Alors on militait les uns et les autres dans des mouvements politiques, situés à gauche, c'est vrai. Et on essayait de remettre tout en question. Et on trouvait que ces carcans politiques étaient un peu rigides pour nous. Et comme ça, on ne s'est jamais perdu de vue. Et puis, lorsque...
Donc, vous aviez une pratique médicale, déjà.
Ah oui, on avait une pratique médicale. On avait fait des remplacements. Personnellement, moi, j'étais médecin de marine marchande. Je faisais le médecin à bord de bateau. Et mes copains aussi faisaient des espèces de missions avec des organismes ici ou là à travers le monde. Et puis il y a eu un événement en 1968, il y a eu la guerre du Biafra. C'était une province du Nigeria qui avait fait sécession, et la Croix-Rouge française a été sollicitée pour des tas de raisons, pour des raisons politiques entre autres, par la Croix-Rouge internationale pour envoyer des équipes. Et la plupart de mes copains, que je connaissais donc, et qui feront les futurs cadres de MSF, sont partis avec la Croix-Rouge française au sein de la Croix-Rouge internationale, au Biafra, et ils ont fait cette rencontre à la fois terrible, et en même temps très exaltante pour un médecin, de rencontrer la guerre, le tiers-monde, la famine. Et en revenant, on a tous essayé de se regrouper pour faire quelque chose. On voulait être en quelque sorte un commando médical pour intervenir immédiatement dans les situations les plus chaudes, les plus insolites, avant l'arrivée des grandes organisations internationales.
Est-ce que vous ne faites pas de double emploi justement avec la Croix-Rouge ?
Non, je ne crois pas. On n'a pas du tout le même créneau, si vous voulez. La Croix-Rouge internationale, c'est une vieille histoire, elle date de... déjà de 1852, c'est Henri Dunant, donc. Et par sa vocation, elle intervient sur les lieux de conflit. La Croix-Rouge internationale, en principe, n'intervient qu'en temps de guerre. Et en temps de guerre entre États, bien qu'elle ait modifié ses conventions et ses statuts. Et d'autre part, elle a des traités avec les États. C'est-à-dire que seuls les pays qui ont signé les conventions de Genève peuvent faire appel à la Croix-Rouge internationale. C'est pour ça qu'elle est absente, par exemple, du conflit en Afghanistan. Elle ne peut pas y rentrer, puisque l'Union soviétique a signé une convention. Elle a été, avant les conventions de 1973, elle a été absente, la Croix-Rouge internationale, du conflit d'Algérie, du conflit de Corée, du conflit d'Indochine, parce qu'ils n'avaient pas prévu les guerres de libération. Maintenant, oui, il y a d'autres statuts, et à chaque fois, elle se modifie, elle essaye d'avancer. Mais disons qu'elle intervient en cas de conflit, elle intervient sur les problèmes des prisonniers de guerre, sur les problèmes des otages, civils ou militaires, mais elle n'a pas vocation de reconstruction, par vocation du développement, et en particulier dans les cas de famine. Enfin, si vous voulez, l'état actuel du monde nous permet, nous, d'avoir notre activité spécifique et la Croix-Rouge, la sienne. C'est... Par ailleurs, nous, on a un fichier de gens permanents. On arrive à avoir des gens qui ne font que ça, un peu.
Donc, vous m'avez décrit un peu l'arrière-fond, l'arrière-fond historique. Mais comment ça s'est déclenché en 72
Ça n'a pas été facile, parce que on venait d'une certaine idée progressiste de la médecine, si vous voulez, et on a été assez mal perçu par les médecins qui, traditionnellement, en tout cas les médecins français, était traditionnellement, j'allais dire, un peu conservateur. Maintenant, ce monde médical a changé. Et disons qu'ils nous ont vu un peu comme des redresseurs de tort, comme des gauchistes, d'ailleurs on l'était, et en tout cas des marginaux. Et ça a été très difficile d'imposer notre image. Et par ailleurs, les grandes organisations internationales ne voyaient pas du tout à conserver, sans ça, ils auraient trouvé, eux, de quoi agir. Donc ça a été difficile. Mais on a été aidé par un journal médical français qui s'appelait Tonus, qui a pu nous servir un petit peu de tribune. Bon, et il voulait aller sans doute dans le sens de la revalorisation du médecin généraliste et cette espèce d'idéal qu'on représentait, cette espèce de romantisme, ça les arrangeait bien. Mais en tout cas, ils nous ont bien servi de tribune, de contact, et ils nous ont laissé un local où on a pu se réunir. Et petit à petit seulement, on a pris contact péniblement avec les organismes. Au début, on ne savait pas très bien où on allait. On s'est défini comme un réservoir de médecins. On était des gens qui avions une certaine expérience de l'urgence, une certaine expérience du tiers-monde, et on demandait aux organismes comme Terre des Hommes, Frères des Hommes, Save the Children Fund, ou même la Croix-Rouge française, de faire appel à nous. Et on partait difficilement. La première année, on envoyait 11 personnes.
À quel endroit ?
Ben écoutez, moi j'ai eu l'honneur de faire la toute première mission de Médecins sans frontières avec Frères des Hommes au Bangladesh. C'était à la fin de la guerre indo-pakistanaise. C'était un pays absolument ravagé par cette guerre, qui était une guerre, on ne sait pas assez, impitoyable, et qui avait fait des centaines de milliers de victimes. Et on avait pour tâche de monter un hôpital en province, dans une brousse éloignée, l'hôpital de Chariakandi, vous voyez, c'est un joli nom, et de monter une banque de sang à l'hôpital de Dhaka. C'était la toute première mission. Mais les autres sont partis, on essayait évidemment de partir au Vietnam à l'époque, et un certain nombre
époque, de... toujours 72-73, oui. C'est ça, le début des années 70.
C'est ça. Et comme ça, un certain nombre de copains ont pu partir avec la Croix de Malte, avec la Croix-Rouge, et avec un organisme qui s'appelait Save the Children Fund, qui intervient actuellement en Éthiopie, entre parenthèses. Mmh. Donc, si vous voulez, c'était des petites organismes qui faisaient appel comme ça à ces médecins marginaux.
Alors, disons, prenons un cas concret pour essayer de nous faire comprendre, si vous voulez bien, n'est-ce pas ? Vous vous trouvez en 72-73, vous vous trouvez au Bangladesh. Comment ça se passe ?
Ben, on a quand même l'infrastructure de Frères des Hommes, qui s'appelle Brother to All Men, à Dhaka. Et on a un petit peu de fonds, un petit peu d'argent pour pouvoir aller en brousse à Chariakandi, près dans la province de Bogra, pour faire sortir de terre un hôpital.
Donc la mission était de construire un hôpital.
De construire un hôpital de brousse.
Oui.
Elle avait été déjà explorée, si vous voulez, par un de mes amis, qui est chirurgien, actuellement ils font plein de comptes, qui était un Guatémaltais qui avait l'habitude de ces situations d'extrême isolement et de pauvreté. Il avait déjà décrété que c'était le bon endroit, parce que isolement, parce qu'il y a une grande densité de population, mais tout de même une possibilité d'acheminement du matériel et des médicaments. Et donc, on paye des maçons pour faire un petit hôpital avec un local d'accueil, un local d'hospitalisation, une pharmacie.
Bon, écoutez, je sais un peu ce que c'est qu'un hôpital américain.
Debrousse,
oui. Non, pas de Debrousse, justement, je ne sais pas. C'est ça que je voudrais savoir. Quel luxe, quel confort, quelle...
Il faut pas se faire
la mesure d'hygiène, enfin, c'est ce que j'aimerais qu'on...
Il ne faut pas se faire la même idée d'un hôpital occidental et un hôpital Debrousse, parce qu'il y a deux paramètres qui sont très importants. C'est, premièrement, médecine d'environnement pauvre. Deuxièmement, médecine de masse. C'est-à-dire qu'on va avoir une grande quantité de population à soigner et on va avoir peu de moyens. Donc il faut s'organiser par exemple autour d'une liste de médicaments essentiels en dessous de ce seuil, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas la liste minimum de médicaments, on ne peut pas travailler, et de matériel.
Donc vous ne faites pas de la médecine sophistiquée, il
n'y
a pas de grande chirurgie, il n'y a pas de...
Et à tel point, n'oubliez pas médecine de masse, à tel point que moi les premiers temps... bien qu'ayant une petite expérience, les premiers temps, lorsque je faisais la consultation, qui était assez décourageante, parce que quand on ouvrait le local le matin, on voyait une file de gens complètement hétéroclites qui avaient voyagé toute la nuit pour amener leurs malades. Les premiers temps, que je mettais mon stéto sur des poitrines ou sur des cœurs, que j'entendais des souffles cardiaques, j'arrivais à diagnostiquer des cavernes tuberculeuses. Eh bien, je voulais donner des traitements et mon copain me disait, mais non, là, on donne de l'aspirine, on les laisse repartir. Et alors, bon, il y avait une révolte d'un médecin occidental. Mais comment on va laisser repartir cette tuberculose ou cette insuffisance cardiaque? Il fait, comment tu vas faire? Tu vas l'hospitaliser? Tu vas lui donner son traitement pendant 12 ou 18 mois? Qu'est-ce que tu vas faire pour son insuffisance cardiaque? Et on était obligé de laisser repartir ces gens avec peu de... Avec rien, quoi, des bonnes paroles, des mots de consolation ou des mots de fraternité, si vous voulez, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Et on laissait repartir, c'est extrêmement frustrant pour le médecin. Là, j'ai acquis une expérience très difficile pour un médecin.
Mais ça veut dire quoi, ce qu'on va pratiquer de la médecine? Parce que donner une aspirine, vous savez, je peux faire la même chose.
Ouais. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un percute de douleur, qui n'a jamais été en contact avec le médicament, vous lui donnez de l'aspirine et là, ça sert à quelque chose, vous voyez se redresser. De même, quelqu'un qui a une maladie infectieuse, qui n'a jamais été en contact avec les antibiotiques, lorsque vous lui donnez quelques millions d'unités de pénicilline, vous le guérissez. C'est dire que la grande majorité des problèmes que nous avons résolus ici en Occident, c'est-à-dire les problèmes de maladies infectieuses, les problèmes de malnutrition, les problèmes de parasitose, c'est à cela qu'on est confronté, c'est une médecine de masse. Bien entendu, ici ou là, et pour des raisons, j'allais dire, politiques, pour se faire accepter par une population, on faisait aussi une médecine de soins curatives, en sachant que ce n'était pas ça le fond du problème. Quant aux maladies chroniques, aux maladies qui demandent un environnement sophistiqué, qui est notre lot quotidien dans les hôpitaux occidentaux, celles-ci, il fallait et il faut encore les abandonner. Et c'est très difficile. Je reviendrai à cet hôpital de Charia-Candie qui m'a beaucoup appris pour vous dire que, par exemple, lorsqu'on est confronté à des victimes en masse, à la suite d'un conflit, par exemple, il y a eu un bombardement et on nous amène des tas de blessés. Si vous n'avez pas des lois rigoureuses qui sont contraires à la déontologie médicale, qui sont contraires à la morale, c'est-à-dire des lois qui disent, voyons, de quoi souffre ce blessé? Vous faites le bilan. Est-ce que c'est une blessure, un crâne, un thorax, un abdomen, un membre? Est-ce que c'est l'urgence des 3 heures, des 6 heures, des 12 heures, des 24 heures? Vous êtes obligé de les cataloguer et de dire, en fonction des moyens dont je dispose un peu plus loin à l'arrière, des moyens d'évacuation, celui-là je le prends et celui-là je ne le prends pas. Par exemple, quelqu'un qui aurait une balle dans la tête ou un éclat d'obus dans la tête. En France, vous avez les SAMU qui arriveraient immédiatement, ils seraient transférés, d'abord déchoqués dans un sas d'urgence et ensuite transférés en neurochirurgie. Il aurait toutes ses chances de s'en sortir s'il n'y a pas d'organes vitaux atteints. Mais sur place, avec les peu de moyens dont on dispose, ça c'est le genre de blessure qu'on laisse. Une plaie du foie qui est extrêmement difficile à traiter. Parce que ça saigne, parce que le foie est un tissu friable, parce que ça demande des transfusions massives. Mais quand vous ouvrez le ventre, vous voyez une plaie du foie, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un champ opératoire et vous laissez pour plus tard, si vous voulez.
Vous laissez, ça veut dire que vous les abandonnez à la mort, finalement.
On les abandonne à leurs ressources. Peut-être qu'on peut revenir après, quand le coup de feu, quand cette situation aiguë est passé, peut-être qu'on peut à ce moment-là donner une seconde chance. En général, évidemment pas, c'est pas la peine de se raconter l'histoire. Oui, vous êtes obligé de faire un tri, ça s'appelle le triage, c'est bien connu des militaires, et vous cataloguez ces urgences, et c'est l'inverse de votre devoir médical que vous devez faire ici en Occident. Vous devez apprendre d'autres règles de conduite, et vous devez les appliquer. Parce que si vous ne les appliquez pas, et que votre petit hôpital, avec vos petits moyens, vous envoyez tout le monde, les gens vont mourir dans les couloirs, les blessés qui auraient une chance ne la trouvent pas, parce que vous vous esquintez à courir après une plaie de la sous-clavière, par exemple, qui saigne énormément, et ça se passe dans le plus grand désordre, vous ne laissez pas les chances à des blessés qui, normalement, seraient de votre ressort. Donc, si vous ne faites pas ce tri, qui est contraire à tout ce qu'on pense ici, si vous ne faites pas ce tri, de toute façon, vous allez vers la catastrophe vous-même et vous serez débordé, et en plus épuisé.
Est-ce qu'il est nécessaire d'être médecin pour faire ce travail, ou si, par exemple, il ne suffira pas d'être un bon infirmier?
Je vais vous dire, non seulement il faut être médecin, mais je crois qu'il faut se priver de l'homme le plus expérimenté et le plus solide pour aller faire ce travail. Parce que c'est un travail le plus difficile, le plus... D'abord, il faut avoir le coup d'œil. Et un coup d'œil qui est définitif, si vous voulez, parce que ceux que vous laissez, vous les laissez. Ensuite, c'est une charge affective, mais extrêmement douloureuse, comme vous pouvez l'imaginer, de faire la sélection. D'aider cette sélection. Et je crois que c'est le médecin le plus expérimenté, le plus ancien et le plus costaud qui doit aller faire ce triage. Oui.
Vous m'avez dit que vous avez actuellement 3000 membres.
Disons qu'il y a un volant de 3000 membres, parce que les gens ne font pas une carrière, enfin, à Médecins Sans Frontières, on
ne
peut pas leur assurer une carrière d'abord parce qu'ils sont bénévoles. Mais je vais revenir sur la notion de bénévoles.
Donc on n'est pas payé.
En principe, on n'est pas payé. Je veux dire que si on donne trois mois de sa vie professionnelle à l'organisation, non, on le fait bénévolement. Bien sûr, l'organisation prend en charge le déplacement et le séjour, mais c'est une sorte de militantisme, on le fait au nom de son idéal. Au-delà de 3 mois, on a pensé qu'il fallait dédommager les gens. Pas grand-chose d'ailleurs, c'est 4000 francs pour un médecin et 2800 francs pour une infirmière. Ça a une importance d'ailleurs qu'il y ait cette différenciation, parce que 4000 francs pour une infirmière, ça serait quasiment les tarifs français. Donc on a fait exprès de continuer cette différenciation sur l'argent. Mais quelqu'un qui va s'en aller 6 mois ou au-delà de sa vie normale, sa vie sociale, sa vie professionnelle, quand il va revenir, il va se trouver avec son loyer, avec ses problèmes de voiture, d'assurance ou que sais-je. Et s'il n'a pas un petit pécule pour redémarrer, ça va être extrêmement difficile. Et en plus, les gens ne viendront pas. Donc, ça serait une sélection par l'argent qu'on aurait. Donc, ils sont bénévoles parce qu'au tarif, on les dédommage, parce que j'ose pas parler de salaire. C'est du militantisme, mais on ne veut pas les pénaliser. Donc, on leur verse des indemnités en France sur un compte qu'ils puissent retrouver lorsqu'ils reviennent.
Est-ce que c'est dire que Médecins Sans Frontières est une organisation strictement française?
Non, non.
Sans frontières, il me semble qu'ils ont pu trouver des non-français.
D'abord, je pense que...
Est-ce que vous avez des Américains, des Canadiens?
Oui, on a des Américains, on a des Canadiens, des Allemands. Il y a des extensions en Belgique, en Hollande, en Suisse. Ce que je pense, c'est que, moi personnellement, alors je ne sais pas si mes amis seraient d'accord, c'est que c'est une idée latine. Je veux dire que, par exemple, cette idée ne serait pas pensable dans un régime socialiste, vous l'imaginez, qui a ses raisons d'État et qui voit l'homme comme un phénomène sociologique et non pas comme un phénomène moral. En Asie, il est impensable aussi. Et je pense que cette idée de solidarité ou de charité ou de service est, me semble, issue d'une tradition judéo-chrétienne, kantienne en tout cas. Cet humanisme médical. C'est pour ça que, à mon sens, il a pu éclore. Là, il est dans la directe filiation Des confréries, vous savez, des hospitaliers.
L'Ordre de Malte.
Des choses comme ça.
Mais quels sont les gens qui viennent à vous? Par exemple, parmi sont des jeunes, sont des vieux, des gens déçus de la vie, des gens qui cherchent à être récupérés, à se justifier. Comment on vient chez vous?
On a eu tout le monde. On a eu tout le monde. Les marginaux, les gens qui voulaient sauver le monde et sauver leur âme, des gens fortement engagés politiquement, puis des gens qui sont instables et qui n'arrivent pas à s'insérer affectivement. On a eu tout le monde. Et puis petit à petit, on a compris que le profil type de... On a constaté, en tout cas, le profil type de ces gens, c'est quand même des gens enthousiastes, sains, qui n'ont pas spécialement de débat métaphysique, ni de débat politique. C'est l'homme des années 80 maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de s'accomplir en faisant un effort, et un effort porté vers les autres. Et les gens à problème, ou des gens qui ont des problèmes, ou des problèmes non résolus, ne peuvent pas les résoudre en allant sur cette action. Parce que je crois qu'il faut être solide quand même.
Imaginons que je sois médecin, que je vous écrive, je dis écoutez, je veux joindre votre groupe, n'est-ce pas? Quels seraient les critères qui feraient que vous m'accepteriez ou que vous me refuseriez?
Mais il n'y a pas de test de personnalité, vous venez, on fait une présentation des missions, deux fois par mois, il y a des présentations de toutes les missions à travers le monde. Puis les gens écoutent, et puis après ils rencontrent, ils vont s'inscrire. Et dit voilà, je parle anglais, je suis disponible tant de temps, à telle époque, parce que aussi il faut le gérer ça. Et j'ai ça comme expérience. Puis il a une rencontre avec quelqu'un qui s'occupe du recrutement. Et puis dans cette rencontre, il se passe des choses. On dit d'où tu viens, pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu attends. Enfin, il y a une espèce de contact informel qui se fait. Disons que c'est un peu au pif que ça se fait. Puis après, il re-rencontre quelqu'un d'autre, comme ça, au hasard des couloirs, et on sent bien qui il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. On a le même pourcentage, 10 ou 15% de gens qui ne conviennent pas, mais on ne saura qu'à l'usage. On a le même pourcentage d'échecs que les autres, mais dans l'ensemble, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait un certain idéal pour être chez vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cet idéal?
Écoutez, moi, je ne peux pas parler au nom des...
Non, mais le vôtre.
Le mien. Mais c'est une certaine idée de l'homme, si vous voulez. Moi, je suis croyant. Je crois que le phénomène homme, ça veut dire quelque chose, et qu'il a sa raison d'être, qu'il y a un projet dans le monde, que ça prend bien des détours, si vous voulez, les états qui se font, qui se défont, ça se fait évidemment à coup de centaines et même de milliers de morts, si vous voulez, mais c'est pour aller vers quelque chose, pour aller vers une finalité transcendante, si vous voulez. Ça je le crois. Si Médecins sans frontières avait existé au cours des âges, il aurait vu sans cesse la même histoire, c'est-à-dire des guerres, des gens qui sont poussés par des envahisseurs, des réfugiés. C'est comme ça que la Terre s'est peuplée, partout. Par des gens qui étaient chassés de leur terre, de leurs habitudes, les familles étaient détruites, et c'est comme ça qu'ils ont peuplé, qu'ils ont recommencé. Le monde est sans cesse un recommencement.
Mais c'est révoltant tout ça.
C'est révoltant pour qui?
Mais il me semble quand même que... Enfin, j'aime mieux peut-être une vie un peu plus pépère, si vous voulez, mais j'ai pas envie, moi, de guerre, de refoulement, de déplacement, etc.
Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'on habite une planète un peu dure. C'est les lois qui sont sur la Terre, elles sont comme ça. Enfin, il y a des prédateurs, il y a une évolution qui a été terrible. Les espèces sont apparues, se sont éteintes. Les plus faibles, les moins adaptés ont disparu, c'est les plus résistants qui ont resté, il y a eu des épidémies, il y a eu des famines. Ces lois, elles existaient, elles ont toujours existé. Et je pense que l'histoire des hommes est un peu le témoin de la violence de cette sélection, de cette évolution, de cette planète difficile. Ce qu'il y a, c'est que comme on en prend conscience et comme on a un esprit, comme on a une âme, je le dis, parce que ça c'est mon idée, c'est pas l'idée des Médecins sans frontières. Je vous parle au nom de, à mon nom, au nom de Xavier Emmanuel. Je pense que notre esprit, si vous voulez, va un petit peu à l'encontre de ces lois, et qu'un jour, sur la Terre, on arrivera à le contrôler, à être vraiment les gens, l'esprit qui a en main la matière et qui arrive à le contrôler. Et c'est un petit peu ça le sens de cette quête de la connaissance, de cette rencontre vers les autres. Petit à petit, j'ai l'impression qu'on arrive à acquérir une connaissance de notre monde, une connaissance des autres, une connaissance de l'homme, de l'univers. Regardez ce qui est en train de se passer, un peu cette possession du monde, on va accaparer un petit peu les lois, on va les contourner, on va s'en servir, et on les mettra au service de la spiritualité. Voilà ce que je pense à long terme. Mais on est bien obligé de passer par des avatars, et bon, les lois sont comme ça. On va les contourner, on les dominera.
Mais il y a un certain fatalisme chez vous. Il me semble que comme la grandeur de l'humanité, c'est précisément pas cette situation de conflit, de guerre, etc. Mais justement l'attention aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus démunis.
Là, vous m'avez pas compris, parce que je dis que la grandeur de l'humanité, c'est de ne pas être la victime de ça. Mais regardez, on a une agressivité. Puisqu'on sort quand même du règne animal, les hommes. On est des primates, et puis on est devenus des hominiens, puis on est devenus des hommes. Et on est quand même fait avec de l'adrénaline, on a de l'agressivité, c'est ce qui nous permet d'avancer, de gagner, de combattre nos maladies. Et malheureusement, au point de vue social, de faire des guerres. Mais je vous ferai remarquer que l'individu, en général, un homme seul, je ne parle pas d'une idée rousseauiste, du bon sauvage, mais un homme seul n'a en général pas extrêmement agressif vers les autres, et plutôt même fait preuve plutôt même de compassion, de pitié. C'est ça votre sentiment naturel. On est toujours attiré ou attendri par un enfant, par quelqu'un de plus faible. C'est simplement quand il est en groupe et qu'il y a des intérêts du groupe que l'individu disparaît et que le groupe se met en marche. Quand on connaîtra bien les lois du groupe, on arrivera sans doute à les maîtriser. Et ce que je pense, c'est que les hommes ne doivent pas être victimes de ces lois naturelles, et que petit à petit, à force de réflexion et de se donner, si vous voulez, et de connaissance, il arrivera à maîtriser son monde.
C'est salut par la connaissance.
D'une part, et d'autre part, en acceptant, mais ça c'est un pas qui est difficile à franchir, que le monde est une pensée. Moi j'ajoute, en tant que croyant, le monde est une pensée et le monde est amour. Parce que même de choses dures, de choses tordues, de choses moches, on arrive quand même à en sortir quelque chose de bien. Je veux dire que j'ai vu des guerres, j'ai vu des combattants, mais j'ai vu au sein de ces combattants l'affection qu'ils pouvaient avoir les uns pour les autres, la camaraderie, les camarades de combat. J'ai vu toujours les gens qui portaient leurs amis pour essayer de les sauver. J'ai vu les femmes se pencher sur des enfants abandonnés. Donc, si vous voulez, même dans des situations extrêmement difficiles, il y a quand même cette loi qui prime et qui arrive à se transformer en quelque chose de bien. Quand vous passez au Tchad, au Sahel, il y a quelqu'un qui tire de l'eau, vous vous arrêtez, il ne sait pas qui vous êtes, mais il vous offre à boire. Enfin, c'est des gestes naturels. Je ne vous fais pas de l'évangélisme comme ça, je ne suis pas un boy scout, je connais trop bien la vie, mais je sais qu'il y a une loi qui est universelle, mais qui prend des nuances et des teintes différentes au fur et à mesure qu'elle traverse les niveaux différents.
Xavier Emmanuel, je vous remercie.